théologie fondamentale par le père Philippe à Saint-Joseph le 1er mai 85.
Je lis tout de suite cette question. Est-ce la foi en tant que telle qui exige la théologie, ou le fait que Dieu se serve d'une parole humaine pour me communiquer son mystère? La foi en elle-même n'est-elle pas au-delà de la parole? C'est parce que Dieu se sert de la parole humaine que la théologie est possible. Et l'exigence de la théologie, c'est pour la coopération de l'intelligence humaine avec la foi. Je reprends, pour que vous voyez bien. C'est parce que Dieu se sert de la parole humaine pour transmettre son message que la théologie est possible. Si Dieu ne se servait pas de la parole humaine pour illuminer intérieurement et immédiatement mon intelligence, ce qui pourrait se faire, il n'y aurait pas de théologie. Je vivrais intérieurement de la foi. C'est tout. Il n'y aurait même pas un credo officiel pour la communauté. Je vivrais ma foi. Dieu peut m'illuminer. Au fond, il y aurait comme, si vous voulez, comme quelqu'un qui reçoit une illumination particulière, et recevant une illumination particulière, sait que Dieu lui transmet cette illumination, mais les autres ne peuvent pas comprendre. Jeanne d'Arc, avec son message. Alors, ce n'est pas la foi, son message, hein. C'est d'ordre charismatique. Mais on pourrait concevoir que la foi soit uniquement personnelle, que Dieu ne se serve pas de la parole humaine pour transmettre son message. Ça pourrait se concevoir. De fait, Dieu se sert de la parole humaine. Et se servant de la parole humaine, il y a quelque chose d'objectif qui fait que par la parole dont Dieu se sert, l'intelligence humaine peut expliciter le donné révélé. On va essayer de le comprendre, hein, progressivement. Alors on pourrait se demander, pourquoi la théologie ? Pourquoi la théologie ? C'est pour que l'intelligence humaine soit au service de la foi, pour que par là mon intelligence soit sanctifiée. Ça sanctifie mon intelligence de faire de la théologie, pour que mon intelligence soit sanctifiée et pour permettre un rayonnement plus grand de la foi, une communication plus profonde de la foi, une explicitation de la foi qui sert à la communication. La foi en elle-même n'est-elle pas au-delà de la parole? La foi se sert de la parole de Dieu. Vous savez, les deux articles que saint Thomas donne au sujet de la foi sont très significatifs à ce point de vue-là. Saint Thomas regarde d'abord la ratio formalis de la foi, la raison formelle de la foi. La raison formelle de la foi, c'est la vérité première. La vérité première, ut révélans. C'est Dieu, la vérité première, en tant qu'elle se révèle. La vérité première, se révélant à moi. Ce qui me permet de comprendre qu'il y a, dans la lumière de la foi, un contact direct avec Dieu qui se révèle, avec la vérité première qui se révèle. La foi se traduit toujours dans un jugement, toujours. Et cette vérité première, outre révélance, se sert de la parole des hommes, pour en faire la parole de Dieu. Dieu se sert de la parole des hommes pour en faire la parole de Dieu. Rien n'est modifié du côté des mots. Dieu a inventé très peu de mots. Quelques mots. Il y avait. C'est pas inventé du reste. C'est donner à un mot une valeur très très spéciale. Mais déjà, toute parole des hommes employée, utilisée par le prophète, fait que cette parole prend une valeur nouvelle, qui devient parole de Dieu. Donc, la foi, quand on dit au-delà de la parole précisée, au-delà de la parole humaine, c'est bien évident. Au-delà de la parole divine, attention, notre foi se sert de la parole de Dieu pour adhérer à la vérité première. Le mystère révélé, c'est la vérité première, outre révélance. Et la foi se sert de la parole de Dieu pour adhérer à ce mystère. J'espère que vous voyez bien. Nous allons continuer, chose délicate que nous sommes en train de faire. Alors n'hésitez pas, s'il y a des difficultés, de les poser, parce que c'est important d'essayer de comprendre cela. Nous essayons de voir comment il peut y avoir coopération de l'intelligence humaine avec la foi. Ceci est important en face de la position, par exemple, d'un Karl Barth, qui dit ouvertement que l'intelligence humaine ne peut pas coopérer avec la foi. Il faut la foi toute pure. Et malgré ça, il écrit toute une dogmatique. N'est-ce pas ? Donc, en disant ça, il devrait rester dans le silence. Je comprends très bien l'attitude mystique. On reste dans le silence. Ce que je vis est ineffable, je ne peux pas vous le communiquer. Ce n'est pas la position catholique. Et on comprend très bien que cette position protestante, luthérienne, parce que, de fait, Luther dit que l'intelligence humaine est faussée, elle est abîmée, elle est blessée par le péché originel. Si l'intelligence humaine est blessée par le péché originel, ce que l'intelligence humaine peut énoncer est erroné. Je ne peux pas donc allier l'erreur et la vérité. Lier l'erreur et la vérité, c'est nécessairement diminuer la vérité. Donc, tout l'effort du théologien, c'est de me dégager le plus possible de toute l'intelligence humaine, de toute philosophie, pour arriver à une attitude de foi pure. Et la différence de l'attitude catholique et de l'attitude d'un Karl Barth, qui représente une attitude très extrémiste, tous les protestants ne sont pas d'accord, c'est bien évident. Mais c'est une position très extrémiste. J'ai connu à Lausanne quelqu'un qui était très une femme, qui était la femme du professeur Thévenin, qui était professeur à la faculté, qui était professeur de philosophie à Lausanne. On s'aimait beaucoup, on se connaissait bien. Je l'ai déjà dit, c'est dans le repas, le dialogue était très curieux parce que lui me disait toujours mon père et elle me disait monsieur. On voyait très bien ce que ça voulait dire pour elle. Et lui, toujours, il avait fait des études à Paris pendant un certain temps, c'était déjà tout à fait un autre climat. Tandis qu'elle était barthienne, très très barthienne, avec une rectitude barthienne extrêmement forte. Et alors c'était toujours au café que tous les problèmes arrivaient, non ? Tous les gros problèmes arrivaient au café, ça sortait, tu vois, sortait avec véhémence, mon père, vous, alors ça commence comme ça toujours, vous qui êtes si intelligent, comment se fait-il que vous acceptez le mystère de l'Immaculée Conception ? Très bien, et c'est intéressant du reste de voir, c'était une volonté d'une foi toute pure, d'une foi toute nue. Nous, nous disons que la foi est toute pure grâce au don d'intelligence. C'est par le don d'intelligence que nous entrons dans une attitude mystique. Donc une attitude de pureté de foi. La béatitude des cœurs purs. Or, que fait le don d'intelligence ? Le don d'intelligence nous permet de ne pas nous arrêter à l'écorce, comme dit Catherine de Sienne, pour saisir la moelle. Et c'est très beau cette expression. La parole, c'est l'écorce. Alors, il ne faut pas rester à l'écorce au visible, il faut toucher l'invisible. Il faut dépasser le visible pour atteindre l'invisible. Et atteindre l'invisible se fait justement grâce à la purification que le don d'intelligence permet à la foi. Ce n'est pas abandonner la parole, ce n'est pas quitter la parole de Dieu, mais c'est saisir dans la parole de Dieu le mystère qui est donné. On ne s'arrête qu'au mystère, on ne s'arrête pas à la parole, ça c'est vrai. Mais on ne quitte jamais la parole. On a toujours besoin de la parole de Dieu. L'attitude mystique n'est pas du tout d'abandonner la parole pour entrer dans le mystère comme si la parole c'était l'étang et le mystère était l'être. Oui, ça y est, une attitude un peu heideggerienne comme ça, de considérer que la parole est étang et puis le point de vue de l'être. Non, c'est à travers la parole que je saisis le mystère et que le mystère m'est donné. Mais il y a une purification par le point de vue de l'amour qui fait que je ne m'arrête pas à l'écorce et je saisis la moelle, c'est-à-dire le mystère qui m'est donné. Et une foi mystique, c'est une foi qui adhère toujours au mystère, qui adhère à la présence de Jésus, qui ne s'arrête pas, si vous voulez, à la méditation, à la théologie, qui est, elle, toujours un peu fixée sur la parole. Alors, essayons de comprendre. Et alors, pour Barthes, c'est très net, hein, l'analogie, c'est le diable. Et on comprend comment, du reste ? Parce qu'il conçoit mal l'analogie. L'analogie qu'il condamne, c'est l'analogie suarésienne, c'est-à-dire une analogie qui, de fait, n'est pas l'analogie de saint Thomas. L'analogie de saint Thomas va beaucoup plus loin. Vous voyez, l'analogie chez les artistes, c'est la similitude. L'analogie aristotélicienne et de saint Thomas, c'est l'altérité. Autre, c'est la diversité qui est affirmée en premier lieu. Et c'est au-delà de cette diversité qu'on saisit un tikoinon, un quelque chose de commun. Tandis qu'au contraire, dans l'analogie suarésienne et artistique, c'est le point de vue de la similitude qui est première. Alors à ce moment-là, c'est très difficile d'éviter l'anthropologie. Non, je veux dire, c'est d'éviter dans l'anthropomorphisme. C'est très difficile d'éviter cette espèce de projection psychologique qu'on fait sur Dieu. Alors qu'il faut éviter cette attitude de projection psychologique. Il faut adhérer au mystère dans toute sa pureté. Dieu, c'est le tout autre. Oui, on affirme l'altérité absolue. Et à l'intérieur, on dit il y a quelque chose de commun. C'est le tout autre, mais c'est juste de dire que Dieu est sage. De dire que Dieu est Père. Et en disant que Dieu est sage et en disant que Dieu est Père, j'affirme quelque chose de positif. Quelle signification ? Mais une signification qui reste toujours dans l'obscurité de la foi. Mais une signification quand même. Ce n'est pas simplement une orientation vers, comme dit le roi, une orientation vers tout le modernisme qui dit une orientation vers « mais je n'attends rien ». Ou, comme disent d'autres, c'est purement négatif. Et donc, ça ne signifie rien du tout. Il y a une véritable signification à l'intérieur même de l'adhésion de foi. Alors, on va essayer de saisir comment cette coopération de l'intelligence avec la foi est possible. Et quelles sont les conditions de cette possibilité ? Donc, une attitude critique au niveau théologique, hein. Dire une attitude réflexive, critique. Je vais bien situer la chose pour que vous voyez bien. Donc, la foi chrétienne, la foi catholique, si vous voulez, pour bien prendre la foi chrétienne, est une foi qui adhère à la vérité première ou très vénance, donc adhère au mystère du Verbe incarné. Puisque c'est le Verbe incarné qui est la vérité première, outre révélance au sens maximum. C'est dans le Christ que la révélation prend toute sa force. C'est dans le Christ où la révélation est plénière. Donc, cette foi chrétienne adhère au mystère du Verbe incarné, c'est-à-dire le mystère du Christ, à travers toutes les paroles de Dieu, à travers tous les prophètes, et à travers l'enseignement lui-même de Jésus. Cette foi chrétienne adhère au mystère du Verbe incarné, par le Verbe incarné, adhère au Père, au Verbe et à l'Esprit Saint, donc à la très sainte Trinité. La foi chrétienne est une foi qui adhère toujours à la très sainte Trinité. Et à partir du Christ et du Verbe incarné et du Verbe du mystère de la rédemption au mystère de l'Église. Il y a un lien entre le noyau central profond de toute la révélation, le mystère de la très sainte Trinité et le mystère de l'Église. Je ne peux pas les séparer. C'est inséparable. Adhérer au Christ ou adhérer à l'Église, c'est la même chose. Ça s'explique différemment, mais c'est la même chose. Vous savez, c'est à Jeanne d'Arc qu'on avait posé le problème. Hein. Est-ce que pour vous, votre foi à l'Église et la foi au Christ, c'est la même chose? Alors elle a dit, je crois bien que c'est la même chose. Et je me souviens, c'était un moment où à Paris, il y avait des conférences assez particulières de certains dominicains, et quelqu'un avait assisté à ces conférences, et on avait dit, l'adhésion au Christ et l'adhésion à l'Église, ce sont deux adhésions de foi différentes. Et cette personne, qui était une bonne chrétienne, pas du tout une théologienne, avait dit, ah ça m'a gros, ça m'a fait de la mal, ça fait mal d'entendre ça. Tout de suite, ça m'est revenu la parole de Jeanne d'Arc. Elle dit, vous avez raison, c'est la même foi. On adhère dans une même foi au mystère de la très sainte Trinité. Notre foi est trinitaire, notre foi est chrétienne, notre foi adhère à l'Église. Et je ne peux pas les séparer. Là, c'est la source, la très sainte Trinité, c'est la source. Le mystère de l'incarnation, c'est le noyau. Et le mystère de l'Église, c'est la conséquence, le fruit. Le fruit direct, c'est le corps mystique. C'est très important de comprendre cela, vous comprenez? Parce que c'est ça qui fait l'unité de notre foi. Et ceci par la parole de Dieu, par la parole des hommes qui est devenue la parole de Dieu. Donc à travers la parole de Dieu, à travers tout ce qui m'est donné dans la Bible. Puisque les paroles des révélations privées sont toujours ordonnées à la parole divine. La parole divine, elle m'est donnée dans la Bible. Alors, je vais essayer de comprendre comment cette foi chrétienne peut impliquer une coopération avec l'intelligence humaine. Premier moment de la coopération, c'est que tout acte de foi implique un acte d'intelligence. Là, c'est très important ce rappel. Tout acte de foi implique un acte d'intelligence. Je ne peux pas exercer un acte de foi sans un acte d'intelligence. Alors vous comprenez que si mon intelligence est fêlée, si j'ai une intelligence hégélienne, où l'habitus hégélien est très très poussé, je n'arrive plus à saisir l'intelligence simple, toute simple, je suis hégélien jusqu'au bout des ongles. Et ça existe, l'hégélianisme peut vous prendre tout. Alors voyez à ce moment-là comme c'est difficile d'être croyant. Clavel était conscient et lui-même plus conscient que Kant. Il le disait dans son livre qui est posthume, il parlait pas, il avait profession de foi. Il déclarait qu'il avait une peine énorme pour son agrégation d'entrer dans Kant, mais il voulait à tout prix y arriver, et puis après il n'en est jamais sorti. Il faut rester conscient et à travers toute sa vie, vous voyez, à vos jours, illumination, il croit. Cette illumination n'a pas changé son intelligence. Elle est restée ancienne. Il croyait tout en étant conscient. Pas commode comme situation. C'est vrai que c'est pas commode comme situation, c'est très difficile. Hein. On peut rester hégélien, on peut rester conscient tout en étant croyant. La foi ne modifie pas un habitus philosophique acquis ou une disposition philosophique acquise. Ça ne change pas ça. Je vous ai donné l'exemple que j'ai moi-même vu d'une façon très forte, un marxiste devenant chrétien, sachant très bien que je ne suis pas fort et que ça grimpe. Chaque fois qu'il faisait un arrêt de foi, ça grinçait un tout petit peu dans son martyre. Donc il fallait à tout prix, et il me disait, l'Esprit Saint a converti mon cœur, il faut maintenant que je convertisse mon intelligence. C'est très juste. Dieu nous laisse le soin de purifier notre intelligence et donc de la convertir. Tandis qu'il a converti notre cœur. Dieu agit directement sur notre cœur. Et normalement, il peut le faire, c'est bien évident. Normalement, il nous laisse le soin de convertir notre intelligence. Très étonnant. Et c'est très beau, du reste. Parce que c'est la coopération la plus profonde qu'on fait avec Dieu, c'est de convertir notre intelligence. Il convertit notre cœur, c'est sûr. Il nous apprend à aimer divinement. Il nous apprend à croire. Alors, vous voyez bien, dans tout acte de foi, l'intelligence humaine est présente. Alors, est-ce que l'attitude philosophique n'est pas l'intelligence humaine, hein? Comprenez bien. L'habitus philosophique n'est pas l'intelligence humaine. Surtout un public ancien qui n'est pas un habitus, qui n'est pas un habitus de sagesse, qui est une disposition. On a des dispositions à être hégélien. On a des dispositions à être conscient. Et quand on a étudié Kant profondément, il n'y a pas d'habitude au sens fort, il y a une disposition. Cette disposition n'est jamais adéquate à mon intelligence. Heureusement. Le Christ peut passer, toute porte est enfermée. Tous les verrous étant mis. Et donc tous les verrous conscients qui sont au niveau de la disposition peuvent être extrêmement bien verrouillés et le Christ peut passer. Pourquoi ? Parce que la foi se fait de l'intérieur. Et donc, la foi se faisant de l'intérieur, la foi s'empare de ce qu'il y a de plus radical dans mon intelligence, de plus profond dans mon intelligence. Une intelligence inclinée par l'amour. Et donc, la foi s'enracinant comme une greffe, c'est une greffe divine, mais de l'intérieur. C'est toujours de l'intérieur que Dieu agit. Et donc, c'est de l'intérieur de l'intelligence. Une intelligence mue par la volonté. Parce que le premier mouvement de la foi, c'est la via affectio. Considérant. C'est cette disposition aimante qui ouvre mon intelligence à vivre de cette lumière de foi. Les dispositions sont extérieures, si j'ose dire, par rapport à ce qui est plus profond dans mon intelligence. Et donc, le passage profond de la lumière de Dieu, de ce don que Dieu fait de la foi, c'est Dieu qui fait directement le don de la foi. C'est le Christ, directement. Alors, ce don de la foi, cette habitus de foi, il s'enracine dans mon intelligence, s'enracine de l'intérieur. Et c'est pour ça que les dispositions, plus ou moins bonnes, ou plus ou moins mauvaises, anciennes et hégéliennes, demeurent. Mais j'aime l'exercice de la foi. J'aime, et quelquefois, font que c'est mal dit. C'est pour ça que ce marxiste converti me disait « Si je n'arrive pas à convertir mon intelligence à une philosophie réaliste, je pourrai toujours rester silencieux et croyant, mais il ne faudrait pas que je me mette à discuter de la foi, parce que ce ne sera pas bien, il y aura toujours quelque chose qui ne va pas. » Parce que ces dispositions sont mal orienté, et donc il y aura quelque chose qui n'ira pas. Alors, vous voyez, c'est ça qui est intéressant. Quelle est la philosophie qui peut coopérer avec la foi ? Sans gêner la foi. Un kantien, un hegelien, un marxiste, sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien. Ordinairement, l'hegelien ne sent pas. C'est très étonnant. Il croit qu'au contraire, c'est merveilleux, c'est la dernière épanouissement de la foi au XXe siècle, on doit être hegélien et non pas aristotélicien. Aristotélicien, c'est des bons pour le Moyen-Âge, aujourd'hui, on est hegélien. Et alors, ils sont, puisque des quantités de théologiens sont hegéliens. Ce bon professeur de théologie dit disant à l'Institut catholique de Paris, c'est quelqu'un qui a assisté, qui m'a dit, commençant le traité de la Très Sainte Trinité, et disant, c'est bien évident que nous allons faire une théologie hegelienne de la Très Sainte Trinité. Alors, comment pouvons-nous nous servir d'une philosophie hegelienne, une philosophie marxiste, une philosophie kantienne, pour éclairer la foi, ou pour permettre à la foi de s'exprimer, de s'expliciter? Quand je suis marxiste, quand je suis hegelien, quand je suis kantien, mon intelligence, dans ce qu'elle a de plus profond, n'est pas atteinte par les conséquences du péché originel, qui sont Kant, Hegel, Marx. Ce qui est le plus profond dans mon intelligence n'est pas atteinte. Je suis en théologie. En philosophie, il ne faudrait surtout pas dire ça, mais il faut vénérer ce genre-là. Grand génie. C'est très vrai, ce sont des génies qui sont faux, mais ce sont des génies. Alors, c'est quand même quelque chose. Tandis que dès que je suis en théologie, je peux tout de suite le dire. Conséquence du péché originel. Espèce d'orgueil, plus ou moins volontaire, l'orgueil de l'intelligence. L'intelligence qui ne se met pas docilement en face de la réalité. Alors, ces dispositions ne touchent pas ce qu'est le plus profond l'intelligence. Grosse question. Est-ce qu'une philosophie réaliste qui aboutit à une métaphysique de l'être, qui nous donne un habitus, pas une bonne disposition, un habitus de sagesse, est-ce que cet habitus demeure extérieur à l'intelligence ou va-t-il au contraire pénétrer plus profondément dans l'intelligence? La fameuse phrase de saint Thomas, si l'intelligence est ordonnée premièrement à l'être, primo cadit in intellectus ens, in intellectus, saint Thomas ne dit pas une philosophie en réalisme, non, in intellectus, primo cadit in intellectus ens, donc l'intelligence, dans ce qu'elle a de plus profond, de plus radical, elle touche ce qui est. Si la philosophie réaliste de l'habitude de sagesse commence par ce qui est, vous voyez tout de suite, c'est une chose très curieuse. Tandis qu'une philosophie qui commence par les formes transcendantales, ou une philosophie qui commence par le point de vue de l'expérience, ou une philosophie qui commence par le point de vue de l'idée, ce n'est pas primo cadit in intellectu. Primo cadit in intellectu, je ne veux pas dire l'idée. Primo cadit, forme a priori transcendantale. C'est secondo, tertio, quarto, je ne sais pas, je vais mettre, je vais montrer comment cadit in intellectu. Vous essayez de comprendre comment la forme a priori transcendantale tombe dans l'intelligence. L'intelligence s'est heurtée sur un mur et alors c'est tombé dessus. C'est curieux, ça c'est intéressant, c'est très intéressant à faire ça, vous voyez, à partir du primo cadit in intellectu. Alors, donc, vous voyez que la philosophie de sagesse qui regarde ce qui est, qui part de ce qui est, elle rejoint le premier moment de mon intelligence. C'est ça qui est extraordinaire. Et cependant, je ne dois pas dire, comprenez bien, je ne dois pas dire que parce que je suis philosophe, mon habitus de sagesse est le réceptacle dans lequel est tombée ma foi. Non. Même pour le philosophe de philosophie réaliste, qui a cette habitus de sagesse, cette habitus de sagesse s'enracine dans l'intelligence. S'enracine dans l'intelligence et saisit le premier moment de l'intelligence. Primo cadit in intellectus ens. Donc ça s'enracine très profondément dans l'intelligence. Même dans ce cas, la foi touche quelque chose de plus radical de l'intelligence que la métaphysique, Parce que c'est l'intelligence dans sa puissance obédientielle qui est touchée directement par Dieu qui m'a fait la foi. Donc ça touche quelque chose de plus. Et puis c'est ma potentialité, ce n'est pas l'exercice de mon intelligence. C'est l'intelligence dans sa potentialité, c'est l'intelligence dans sa capacité. Ce n'est pas le premier acte d'intelligence. Non, non. La foi touche quelque chose de tout à fait radical de l'intelligence. L'intelligence dans ce qu'elle a de plus profond. Vous voyez, une intelligence qui est touchée par l'amour, une intelligence qui s'ouvre à l'amour. Mais c'est évidemment cette habitude de sagesse qui est tout proche. C'est difficile de se représenter ça, parce qu'on ne peut pas se représenter, il s'agit de quelque chose qu'on ne peut pas se représenter, c'est l'esprit. Mais c'est l'esprit atteint par Dieu, Dieu qui nous communique sa lumière, Dieu qui nous communique la foi, c'est l'esprit atteint de l'intérieur. Et c'est pour ça que ça touche quelque chose d'aussi fondamental. Je ne peux jamais toucher quelque chose d'aussi fondamental dans mon intelligence. Parce que je touche mon intelligence toujours de l'extérieur, forcément, c'est-à-dire par l'imagination, par le point de vue des fantasmes, par le point de vue de la parole. Et donc je ne touche pas directement et immédiatement ma capacité intellectuelle. Il y a Dieu qui fait ça. Et c'est pour ça que l'habitus de foi est si enracinée en nous. Mais l'exercice de la foi, comprenons bien, l'exercice de la foi va tout de suite se servir, ça ne peut pas être autrement, des dispositions de l'habitus. Donc, dès que la foi va s'exprimer, où elle répète les paroles de Dieu, c'est ce qu'elle fait en premier lieu. Première affirmation de foi que vous faites, c'est de reprendre le credo. Ça, vous faites en premier lieu. À côté de vous, assiste à la messe un conscient, et les croyants, d'avoir fait le même credo. Pas un credo conscient, non. Vous allez rester même. Il y a un hégélien à côté de vous. Un bon jésuite hégélien. Il assiste à côté de vous, il est juste à côté de vous. Ben bon, c'est très bien. Je récite le même credo. Et nous allons développer pleinement et totalement avec une charité parfaite. Et nous sortons et on discute philosophie. Alors à ce moment-là, c'est la joute. C'est tout à fait différent. Oui, mais alors, il faut bien saisir. C'est tellement important ça. C'est tellement important de savoir. Il s'agit de respecter l'autre. Et pour le respecter, il faut savoir où il y a quelque chose de commun et où on ne va plus s'entendre très bien. Et si on est très astucieux dans la conversation, on restera toujours dans le petit koinon, ce qui est commun, pour ne pas attaquer le sujet difficile où on est sûr qu'à ce moment-là, on commencera à dire non, ça ne va pas. Alors, vous voyez bien que l'expression de la foi, l'exercice de la foi, parce que la foi est intérieure, acte intérieur, puis la foi est extérieure, elle s'exprime, elle se dit. Et l'acte extérieur de la foi est second. L'acte premier de la foi est intérieur, donc c'est ce qui est plus profond dans mon intelligence. Quand je dis que l'acte de foi implique la coopération de l'intelligence, c'est très vrai, mais l'intelligence dans ce qu'elle a de plus radical, au-delà de tout habitus. Au-delà de tout habitus. Mon acte intérieur de foi est quelque chose de tellement radical que c'est au-delà de toute habitude et de toute disposition. Mais dès que ma foi s'exprime, il y a le langage. Alors elle s'exprime d'abord, dans un point de vue du credo. Elle s'exprime ensuite par la parole de Dieu. Nous lisons l'Épître. Nous lisons l'Évangile. Et en lisant l'Épître et en lisant l'Évangile, on s'exprime, puisqu'il y a une parole. Et la lumière de foi est la même. Et la parole est la même. Parce que cette parole est donnée. Elle est donnée par Dieu. Mais dès que j'explicite le sermon qui va suivre, c'est au sermon que ça devient délicat. Alors, ou vous prenez les pères de l'Église. Ça va très bien. Bien commun de l'Église. Vous prenez l'enseignement actuel de l'Église. Bien commun de l'Église. Mais on ne fait pas uniquement une série de citations. Il y a nécessairement une certaine herméneutique, une certaine explicitation. Et cette explicitation, elle va impliquer forcément l'acquis que vous avez au point de vue intelligence. Si vous êtes poète, ça va très bien. Parce qu'on peut prendre politiquement des symbolismes merveilleux. Frappé par telle ou telle chose, ça va très bien. C'est d'une certaine manière au-delà de toutes les écoles. Vous êtes poète. Vous avez un don de poésie extraordinaire pour accrocher les gens. Continuez. Bon, c'est merveilleux. Si vous voulez expliciter un peu plus profondément, faire appel à une théologie. Et pas seulement à un symbolisme. Un symbolisme peut se traiter dans une théologie mystique. Hein. C'est l'avantage de la théologie mystique. La théologie mystique, elle implique une certaine explicitation symbolique et donc elle a une ampleur très grande. C'est pour ça qu'en prédication, la théologie symbolique a ce pouvoir d'atteindre des gens de bords très différents. Mais si vous, vous employez maintenant une théologie qui veut être rigoureuse, nécessairement va intervenir là une interprétation qui va faire appel à tel ou tel élément de philosophie. Dans l'explicitation. Alors à ce moment-là, où vous avez la vie de sagesse, où vous avez les dispositions kantiennes et hegeliennes, mais alors à ce moment-là, forcément, votre herméneutique de la parole de Dieu va impliquer des aspects divers. Et vous reconnaîtrez, vous voyez, la petite oreille kantienne, hegelienne, heideggerienne, ou thomiste. Je dirais tout de suite, ah, il y a une philosophie là, saine, bonne, ou il y a une philosophie idéaliste. Vous voyez où ça intervient? Ça, c'est un fait. Je crois qu'on peut tous constater ce fait. Si on n'a pas encore constaté, on le constatera dans sa vie. Avant, c'est évident, le bon peuple de Dieu n'est pas philosophe, n'est pas théologien, alors le bon peuple de Dieu avale. Mais le bon peuple de Dieu, de temps en temps, quand il a une foi suffisamment pertinente, sent ce que le psaume dit, les hommes ont diminué la vérité. Alors il semble bien que l'interprétation qu'on donne de la parole de Dieu est une interprétation qui diminue la vérité. Et ils en sont un peu meurtris. Et ils sont tristes. Ils ne sont pas nourris. Parce qu'à la place d'éveiller plus leur foi, on éteint. Diminue. Alors c'est ça où c'est très important de comprendre ce point de vue-là. Vous voyez où intervient le point de vue philosophique, dès qu'il y a interprétation. Dès qu'il y a interprétation. La foi intérieure ne fait pas appel à la philosophie. La foi qui s'exprime avec le credo ne fait pas appel à une philosophie. Si je suis docile à réciter mon acte de foi, mon credo, peut-être qu'en y réfléchissant, je dirais tout de suite, Dieu, créateur du ciel et de la terre, ou le ciel et la terre, l'évolution du ciel, l'évolution de la terre, qu'est-ce qu'on va penser de là? Alors immédiatement, à ce moment-là, vous n'énoncez pas le credo tel qu'il est. C'est si important d'avoir un catéchisme qui soit la doctrine de l'Église. Indépendamment de tel ou tel herméneutique, qui est l'enseignement d'Église. Plus la philosophie est multipliée dans sa diversité, plus il nécessaire qu'il y ait une norme commune pour la foi et pour l'enseignement de la foi et la transmission de la foi. Plus c'est nécessaire, parce que quand on est en face de la très grande diversité, comme aujourd'hui, de la philosophie, vous voyez que dès qu'on se met à interpréter, s'il n'y a plus de normes, partez n'importe où. Quand de Lyon, il n'y avait que 5 voies pour toute l'Europe, ça allait bien. Mais quand de Lyon, il y a des 36 autoroutes et multiples et diverses, si vous n'avez pas une carte, vous y perdez. Vous n'avez pas besoin de carte. Il n'y a pas encore les cartes Michel. C'était merveilleux, il n'y avait que 5 voies. On les connaissait par cœur. Et dès qu'il y a une multiplicité de routes, multiplicité de sentiers, multiplicité de philosophies, il est nécessaire qu'il y ait une norme. Il ne peut pas être autrement, impossible autrement. Alors, vous voyez où se situe l'apport philosophique dès qu'il y a interprétation de la parole de Dieu. Je crois que ça, on peut tous se saisir. Alors, ce qui devient plus difficile, c'est d'expliquer. Cette interprétation est-elle légitime? Il faut d'abord regarder la légitimité de cette interprétation. Ou est-ce que je suis obligé uniquement de rappeler la parole de Dieu? Ou est-ce que j'ai le droit d'interpréter? Et non seulement le droit, mais le devoir. Est-ce que c'est légitime l'interprétation de la parole de Dieu? Est-ce que la parole de Dieu peut être interprétée? Ensuite, quelles sont les interprétations qui ne diminuent pas la parole de Dieu, qui sont dans le sens de la parole de Dieu, et quelles sont les interprétations qui diminuent forcément la parole de Dieu? Alors voyons d'abord, si vous voulez, l'interprétation est légitime. Eh bien, l'interprétation est légitime parce que ma foi s'exprime dans un langage humain. Elle s'exprime dans un langage dont Dieu s'est servi, dont l'Église s'est servie, et ce langage dans la foi devient parole de Dieu, devient enseignement actuel de l'Église, et donc est porteuse d'une vérité infaillible. La parole est un instrument adéquat, un instrument qui exprime la vérité première qui se révèle à moi. Pas un instrument adéquat au sens absolu, mais un instrument légitime qui, de fait, me transmet la lumière divine, la lumière de la révélation, et qui me transmet à travers l'Église. C'est pour ça que l'Église a pu faire un symbole des apôtres. C'est pour ça que l'Église peut faire une profession de foi qui résume la foi, qui résume tous les grands dogmes de foi. L'Église peut le faire, et l'Église l'a fait, pour simplifier. C'est déjà, vous voyez, quelque chose d'extraordinaire de passer de toute la révélation au symbole des apôtres. C'est très étonnant, ça. Est-ce qu'on n'a pas diminué la foi en faisant ça? Non, on n'a pas diminué la foi. On l'a ordonnée, mais on n'a pas diminué. Le symbole des apôtres ne diminue pas la foi. Le symbole de Nicée ne diminue pas la foi. Il canalise, il résume, mais il ne diminue pas la foi. Ce passage de la parole de Dieu à un symbole des apôtres. Et le passage de la parole de Dieu à la théologie. Est-ce légitime en face de Karl Barth? Est-ce légitime la théologie? Je dis oui. C'est légitime. Non pas parce que saint Thomas l'a dit, non pas parce que, mais parce que, d'une part, parce que l'Église l'a toujours reconnu. C'est très étonnant ça. L'Église a toujours reconnu l'interprétation des apôtres. L'interprétation, toujours. Et pourquoi cette interprétation est-elle légitime? Parce que Dieu s'est servi de la parole humaine. Alors, comprenons bien, la foi est toujours dans un jugement. Ce n'est pas au niveau des concepts qui aura coopération. C'est au niveau du jugement. Et au niveau du jugement, c'est possible Parce que, de fait, Dieu s'est servi de la parole humaine. Or, toute parole humaine se réfère à l'intelligence, et quand Dieu se sert de la parole humaine, cette parole humaine se réfère à la lumière de foi. Tout en se référant à l'intelligence. Il y aura donc possibilité d'interpréter le contenu de cette parole divine, qui possède une signification humaine, puisque Dieu se sert de la parole humaine. Et donc elle a une signification. Quand Dieu dit « Dieu est Père », c'est une signification pour moi. Dieu est lumière, c'est une signification. Dieu est amour, c'est une signification. C'est une signification humaine et une signification divine. Parce que Dieu s'est servi de la parole humaine. Et que toute parole humaine implique une signification humaine. Humaine, je dis. Pas philosophique. Dieu ne s'est jamais servi de la philosophie d'Aristote. Dieu s'est servi de la parole des hommes. Et quand l'Église se sert de tel ou tel théologien,